France Inter.
Bonjour, c'est Michel de Montauban-Bretagne. Le sujet du jour m'intéresse énormément. Je suis très attachée, écologiste. Je pense qu'on ne s'en sortira pas sans réduire le temps de travail. Mais je suis inquiète de voir que de plus en plus, c'est la semaine de 4 jours qui est préconisée, y compris la semaine de 4 jours sur 32 heures. Je tiens à mettre en garde, ce n'est pas ça qui nous fera changer notre mode de vie. C'est la réduction de la journée de travail qui peut nous changer vraiment notre mode de vie. Moi, je préconise 5 heures par jour, pas plus, et de façon échelonnée, bien sûr, selon les compétences et les métiers. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Pascal, j'habite en Haute-Savoie, à Sallanches. Ma question est, qui paiera les cotisations sécurité sociale, retraite, si l'on travaille moins? Bonne journée.
Oui, bonjour, la Tour au Carré, c'est Marc du Val-de-Marne. Il ne faut pas s'étonner que les écologistes, leur score risque de baisser encore plus aux prochaines élections. Quand on voit qu'ils sont procéduriers, ils attaquent à tour de bras les États pour une action ceci, climatique, environnement, je ne sais trop quoi, ben c'est normal que les gens soient un peu inquiets. Si on continue comme ça, évidemment, ben ce sera normal que les gens se braquent et choisissent d'autres partis. D'ailleurs, l'écologie ne devrait pas être un parti. Ça devrait être partagé par toutes les obédiences politiques et non pas par un qui se targue d'être le seul à les représenter. Voilà. Bonne continuation.
Oui, bonjour. Alain de Pontrieux, l'une de vos invitées, Anne Sander, était particulièrement insupportable. Des gens comme elle, sous prétexte de défendre les agriculteurs, défendent en fait une minorité riche. C'est un classique des politiciens de droite de se cacher derrière les petits pour défendre les intérêts des gros. En tout cas, c'était vraiment insupportable. Bonne journée, au revoir.
Bonjour, Benoît de Vic-le-Comte. La commune de Vic-le-Comte se lance dans un atlas de la biodiversité. Naturaliste et curieux de nature, venez observer et recenser la faune, la flore, les différents milieux. À bientôt.
Bonjour Cédric de Lyon, bonjour Mathieu, bonjour Camille. J'écoute beaucoup France Inter et en ce moment je suis très fatigué d'écouter tout le temps vos publicités sur la bonne viande, la viande bovine qui se mange de toutes les façons, de toutes les assiettes, de toutes les manières. Pour une chaîne de radio qui a priori est plutôt branchée un peu écolo, du moins aller vers un monde qui va mieux. Bon, je comprends qu'il faut bien faire de la pub, hein, rapporter de l'argent, mais il y a peut-être moyen de faire des pubs autres. Que la boucherie, personnellement, je suis végétarien depuis 17 ans, je me porte très bien. Et quand je vais me promener dans les champs, je regarde les vaches et les veaux dans les yeux et je suis bien content de pas manger de viande. Bonne continuation, merci.
Salut Cédric, vous qui prêchez les convaincus parce que ça n'est pas faute d'avoir régulièrement évoqué ce sujet. Peut-être qu'un jour, les pubs pour la viande disparaîtront des antennes, mais pour le moment, malheureusement, ça n'est pas à l'ordre du jour. 01 56 40 45 45, c'est le numéro du répondeur. Restera dans les annales comme une année exceptionnelle pour l'arbre généalogique de l'humanité. Cette année-là, en effet, les paléoanthropologues qui étudient l'évolution de la lignée humaine annoncent deux découvertes majeures. La première concerne Néandertal. Le séquençage de son génome montre que nos cousins éloignés se sont mélangés avec nos ancêtres sapiens. Les Néandertaliens entrent du jour au lendemain dans notre famille. La seconde découverte, véritable cerise sur le gâteau, est carrément la découverte d'une nouvelle espèce humaine identifiée grâce à l'analyse d'un fragment de doigt découvert dans la grotte de Denisova en Sibérie. Cette analyse révèle l'existence d'un groupe jusqu'alors inconnu. Il s'agit d'un pan entier de l'humanité qui apparaît soudainement grâce à ce frère oriental et son tout petit fossile de phalange. Depuis cette annonce, les scientifiques ont enquêté pour dresser le portrait robot de cet humain de Denisova. Qui était-il vraiment? Comment vivait-il? Eh bien, c'est le fruit de ces recherches qui est publié dans un ouvrage, L'énigme Denisova, et qui paraît, dont nous allons parler cet après-midi avec ses deux auteurs, Sylvana Condemi et François Savatier. Bonjour. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue Sylvana Condemi, vous êtes donc paléoanthropologue et directrice de recherche au CNRS, au sein de l'université Aix-Marseille. François Savatier, vous êtes journaliste scientifique au magazine Pour la Science et votre ouvrage paraît chez Albin Michel. On va donc se retrouver dans un instant pour que vous nous racontiez cette épopée denisovienne. Vous allez répondre aux messages et aux questions qui arrivent dès maintenant sur la page de l'émission et sur nos réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Avec époque très actuelle.
actuel hein, pour moi par contre. Deux géants, H&M et Zara. Une enquête de l'ONG britannique EarthSight montre que le coton qui est dans leurs vêtements est sale, du coton lié à la déforestation, pollution, mais aussi violation des droits humains au Brésil.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaray, dossier préparé par Anna Massardi avec Julien Thévenot à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
La paléontologie, c'est pas seulement de la morphologie, c'est pas seulement de la géologie, c'est aussi de la paléogénétique. Et c'est cette combinaison qui permet de montrer qu'en fait, ça fait plusieurs décennies qu'on avait des crânes de Denisova, et depuis 2010, on se demande à quoi Denisova ressemble alors que ces crânes étaient là, sous notre pif. Et c'est la multidisciplinarité de la paléontologie et de la paléogénétique qui ont permis l'identification de cette découverte majeure.
Et voilà, ils étaient là sous nos pifs, extrait d'une vidéo d'Entracte Science en 2022, après Néandertal et Sapiens, donc la découverte d'une nouvelle humanité, celle de Denisova. C'est l'histoire que vous racontez dans ce livre, Sylvana Condémy et François Savatier. L'occasion de mieux comprendre qui étaient donc les Denisoviens et les Denisoviennes, que le grand public d'ailleurs ne connaît pas encore très très bien.
Hein, non, Condémy, non, non, pas du tout.
Il y a du boulot.
C'est-à-dire
là,
qu'on connaît Néandertal, on connaît d'autres espèces Sapiens, ouais. Mais Denisova doit être connu puisque c'est le frère, le groupe frère oriental de Néandertal.
Ouais.
Et c'est la population asiatique qui vivait au même moment où vivait Néandertal en Europe.
Ouais. François Savatier, pourquoi on connaît mal Denisova aujourd'hui justement ? Parce qu'il était un petit peu loin de nous géographiquement ?
Pour essentiellement deux raisons. La première tient à sa découverte étrange sous la forme d'ADN dans un fragment de phalange que l'on ne pouvait pas identifier.
Mmh.
Et la deuxième est en quelque sorte qu'il a été découvert sans avoir été reconnu. C'est-à-dire que le registre fossile denisovien était déjà présent en Chine, comme nous venons de l'entendre, et il était interprété comme celui d'Homo erectus, ce qui a créé beaucoup de malentendus.
Donc il y a eu erreur, effectivement, sur les interprétations. Mais heureusement, en 2010, tout change. Sylvana Condémy, alors ça, c'est une année faste, hein, parce que je le disais tout à l'heure, ça a été vraiment quelque chose de très particulier pour votre discipline, la paléoanthropologie. Néandertal a rencontré et s'est croisé avec Sapiens. Donc ça, c'était la première information.
La première information, c'est-à-dire que nous avions, alors qu'on pensait que les Néandertaliens étaient une branche morte, on s'est rendu compte que non, nous Sapiens, nous étions croisés à plusieurs reprises d'ailleurs avec Néandertal.
Ouais.
Donc première grande information.
Donc Néandertal vit encore en nous d'une certaine
voilà,
manière.
Voilà, tout à fait. C'est pour ça que c'est une information importante. Et deuxième information, il avait un frère oriental qu'on ne connaissait pas.
Ouais. Et alors c'était, vous le dites bien dans le livre, à quel point ça a été un choc quand même pour vous. Hein.
Alors écoutez, en tant que paléoanthropologue, ce qu'on apprend, c'est qu'on travaille sur des os et des dents. C'est-à-dire qu'on fouille, on a des vestiges osseux, dentaires, et on essaye de faire parler ces vestiges avec différentes méthodes qui sont de plus en plus perfectionnées.
Mmh. Mais là, prend du temps.
Ça prend du temps, mais par la paléanthropologie, là, c'était la première fois, et ça reste la première espèce qui était découverte par les gènes.
Voilà, par la paléogénétique.
Voilà,
donc,
tout à fait.
En l'occurrence. Donc ça vient vous bousculer quand même un petit peu aux entournures.
Tout à fait.
Hein.
C'est-à-dire qu'au départ, on a été un peu, je crois que je suis pas la seule paléoanthropologue qui a été surprise, mais très très vite on s'est ressaisi quand même. Hein. On s'est dit, mais c'est pas possible, cherchons bien.
Ouais.
On a analysé d'une façon assez approfondie ce que nous ont dit justement les paléogénéticiens. On a essayé d'expliquer à partir du peuplement de l'Asie qu'on connaissait quels sont ces fossiles qui peut-être avaient été déjà découverts mais n'avaient pas été reconnus comme tels.
Ouais, et tout ça, on le doit quand même à l'équipe de Svante Pebe. Hein,
Oui, alors c'est un hommage que nous rendons dans l'énigme Denisova. On a deux chapitres sur la génétique dans lesquels on raconte cette aventure absolument magnifique qui a été menée par le Max Planck de
Institute.
Leipzig et par l'équipe de Svante Pebe qui d'ailleurs a eu le prix Nobel en 2022 pour ses découvertes.
Absolument. Jamais on avait, François Savatier, défini une espèce humaine uniquement par son génome, donc par l'ADN, la découverte.
Jamais avant Denisova. Dans notre livre, nous appelons l'espèce Denisova et la grotte Denisova.
Mm-hmm.
Alors, quand je dis Denisova, ce que je veux dire, c'est l'humain de Denisova. Et donc, jamais une espèce n'avait été défini par son génome, et d'ailleurs, il n'y a pas de méthode encore aujourd'hui qui soit admise pour le faire.
Mmh.
Quand on découvre un génome, celui d'une espèce animale ou même un génome humain, on découvre de l'ADN et c'est tout. On ne peut pas parler d'espèce et il n'y aura pas de... La conclusion ne sera pas tirée qu'il s'agit de telle ou telle espèce. Et donc, pour autant, en science comme dans le public, tout le monde parle et agit comme si c'était bien le cas, si on avait une espèce.
Et d'ailleurs, vous avez bien poussé les choses, vous, du côté de la presse, parce que c'est vrai que vous avez titré très rapidement que c'était la découverte d'une nouvelle espèce. Donc vous avez aussi bousculé un peu les scientifiques, quand même.
Personnellement, je ne me sens pas très coupable, parce que quand j'ai entendu parler de ces découvertes, j'étais complètement confus. Il y avait, par exemple, ce grand savant américain, là, Bierhaus, c'est ça, qui a découvert un fossile que nous avons aujourd'hui classé comme dénisovien. Et il a dit, bon, deux explications possibles, soit les Néandertaliens sont allés jusqu'au centre de la Chine, soit il s'agit d'une nouvelle espèce. Enfin bref, la situation n'était pas claire.
En tout cas, tout ça vous bouscule quand même.
Ah oui,
et fait avancer la science d'une certaine manière.
Ça fait énormément avancer la science. Et aujourd'hui, on sait beaucoup plus sur, pas simplement Denisova, sur Néandertal, mais même sur Sapiens. Parce que ça, on a analysé des génomes de populations sapiens actuelles en Asie, qui nous ont donné énormément d'informations, également sur les Denisovains et sur la répartition géographique de cette population.
Et pour autant, il n'y a pas de nom scientifique encore donné à Denisova.
Non, parce que pour donner un nom scientifique, en principe, quand on a une espèce, on la définit par un certain nombre de caractères bien précis. Par exemple, si on parle de notre espèce Homo sapiens, on peut dire qu'un caractère qui est extrêmement important, c'est que nous avons un menton osseux. Nous sommes la seule espèce humaine qui a un menton osseux. Dès qu'on trouve un menton osseux, eh bien on se dit, on est face à un Homo sapiens. Mais on a toute une série de caractères pour définir Néandertal, mais on n'avait pas de caractères pour définir Denisova. Donc aujourd'hui,
toujours pas donc de nom scientifique.
Non, on parle de l'espèce denisovienne, de la population denisovienne, de cette population qui est le groupe frère de Néandertal, la population asiatique qui a vécu au même moment que Néandertal, mais on n'a pas de définition scientifique acceptée par l'ensemble de la communauté.
Et comment on pourrait l'appeler, alors, François Sabatier, parce qu'il y a quand même des idées là-dessus, hein.
Alors, je ne suis pas paléoanthropologue, mais je vais tenter de répondre. Et d'après ce que j'ai perçu, la règle veut que l'on donne le nom d'espèce d'après le premier fossile faisant partie du corpus qui est...
Le premier, c'est quoi? C'est le plus ancien?
C'est le plus ancien.
Ouais.
Le plus ancien, le premier fossile d'un point de vue chronologique.
Et donc là, en l'occurrence, quel fossile s'agit-il?
Nous avons mis l'homme de Dali, nous avons mis à la base de cette vraie population denisovienne. Or, c'est très intéressant, l'homme de Dali, qui est un fossile chinois, a été trouvé il y a très longtemps, en 1978.
Et c'était quoi d'ailleurs? C'était un crâne
C'est un crâne magnifique, avec une belle face, il n'y a pas de mandibule. Mais ce fossile, est vraiment l'histoire, quand on se penche sur l'histoire de ce fossile, ça explique tout le malaise qu'on ressent face à une population qu'on ne connaissait pas. Parce qu'il a été classé d'abord comme un Homo erectus. En Chine, dès qu'on trouve un fossile, ou qu'on trouvait un fossile, c'était un Homo erectus, à partir des fameux fossiles qu'on considère comme l'espèce emblématique asiatique. Et puis après, on a dit que c'était un Homo erectus évolué. Et ensuite, c'était un Homo erectus sapiens.
Ouais.
Vous voyez, donc ça donne toute l'idée du malaise qu'il y a autour
alors
de ce fossile.
Alors qu'on avait un denisovien sous le nez, en fait.
À mon avis, il est à la base de cette population.
Pourquoi Dali, d'ailleurs?
Dali, c'est un lieu.
C'est un lieu dit.
C'est juste le lieu.
C'est juste le lieu Dali.
Et donc daté de combien?
Alors aujourd'hui, on le date de 260 000 ans.
Ouais. Donc ça, c'est le premier, le plus ancien découvert à ce jour.
Alors le plus ancien qui est vraiment présente une panoplie de caractères que nous avons définis comme denisoviens. Mais il y a des fossiles qui anticipent un peu ces caractères.
D'où venait Denisova, cette sorte de néandertalien d'Asie? À quoi ressemblait-il? Quel était son mode de vie? Comment s'est-il adapté? Toutes ces questions, eh bien, on va les aborder avec vous dans un instant. C'est l'objet de ce livre, L'énigme Denisova.
L'homme se consuma tout petit jeu, le charbon et les paupières en feu, sa anesthésie de poison sans visage et des chants de sirènes de passage. Le soir progresse et son manteau de givre s'étend sur ses mille visages. Et il dérive de séduction survie au grand art de l'esquive. Il esquive comme une peau de satin de serpent. Sa muse se dissout dans la nuit d'argent. Les eaux qui flambent vont se disperser. Et l'aveuglé de paillettes d'acier, lorsque ta vie ne semblera plus t'appartenir, que tu chercheras à t'enfuir, te reconstruire, ouvre grand les bras, gonfle ta poitrine et respire. Bien sûr, tous les gens du passé, tous les vampires chercheront à te retenir, à te salir. Laisse un pur oxygène lentement t'envahir et respire. Dresse-toi dans le ciel clair de Paris. Les drapeaux hissés flottent haut et irradient. Les cloches à toute volée vont retentir. Laisse un pur oxygène lentement t'envahir et respire. Respire. Respire.
Respire, Étienne Dao sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Il se trouve que les Tibétains ont reçu un bout de génome de Denisova complètement fondamental. Les Tibétains sont adaptés à l'altitude. Eh bien, ce bout de génome, il a été reçu de Denisova. Et on sait maintenant qu'effectivement, Denisova a vécu au Tibet en altitude pendant plus de 50 000 ans. Ça lui a laissé le temps de s'adapter à l'altitude. Et quand l'homme moderne rencontre Denisova, ils se croisent et donc le gène qui permet d'être adapté à l'altitude est sélectionné chez les humains qui vivent au Tibet.
Et ça, c'est la voix de la biologiste Hélène Heyer en 2021 oui. Dans une vidéo de Science et Avenir. On parle de l'énigme Denisova cet après-midi. C'est l'objet d'un livre qui paraît chez Albin Michel et que vous signez Sylvana Condémy et François Savatier. Bah, parlons tout de suite de ce gène de l'altitude. C'est quand même assez amusant, ça, cette histoire.
Oui, c'est très 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 intéressant parce que justement, on a simplement très peu de fossiles denisoviens, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé beaucoup sur les génomes actuels des humains d'aujourd'hui, pas simplement européens, mais surtout asiatiques.
Vivant dans des régions d'altitude, par exemple.
Dans des régions. Alors, on a d'abord regardé dans les régions parce qu'on pensait que les denisoviens étaient inféodés au nord de l'Eurasie, puis on s'est rendu compte quand on a étudié tous les génomes asiatiques que, étrangement, il y avait plus de gènes denisoviens chez les populations du sud de l'Asie, du sud-ouest de l'Asie et dans toutes les îles.
Donc plutôt du chaud, plutôt
voilà,
des pays chauds.
Et on s'expliquait mal au départ pourquoi à Denisova 3 avait ce gène de l'altitude. Parce que bien sûr, on est dans l'Altaï, mais c'est une zone un peu de colline. Et quand on a trouvé le fossile de Xiaé, qui donc se trouve au Tibet, Eh bien là, on a compris pourquoi. On s'est dit, ben, il y avait des Denisoviens qui vivaient à plus de 3000 mètres.
Mais qu'est-ce qu'ils faisaient à cette altitude à l'époque? Enfin, il fallait quand même vouloir vivre dans des conditions pareilles, quoi.
Vivre dans l'Altaï, à 800 mètres d'altitude, je crois que c'est l'altitude de la grotte de Denisova, c'est vivre dans le froid en hiver.
Vous dites qu'il faisait 0 degré dans la grotte. Hein. C'était beau penthouse, mais très froid.
C'est ça, c'est la raison précise pour laquelle l'ADN s'est conservé, depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Et donc, en fait, quand on est capable de vivre dans le froid, quand la culture que l'on pratique fournit tous les moyens techniques de vivre dans le froid, on peut très bien vivre dans un froid qui est dû à l'altitude ou dans un froid qui est dû à la latitude. Mmh. Et donc, ça n'est pas si étonnant que cela que les Denisoviens aient investi le plateau tibétain dont l'altitude moyenne est de 4500 mètres.
C'est ça. Et donc, ce gène, il est apparu quand d'ailleurs, ce gène? Comment ça se passe dans une espèce comme
alors,
ça?
Alors, je ne sais pas quand
c'est une adaptation
apparu.
Qui
non,
fait
que
le gène
les
naît.
Les Denisoviens l'avaient. Et pas simplement Denisova III, qui est daté d'environ 80 000 ans, mais apparemment également le fossile de Zayé, qui donc est plus ancien de 140 000 ans. Et c'est ce gène-là qui a été transmis aux sapiens qui vivent en altitude.
Voilà.
Alors,
c'est un héritage direct de
Denisova. Combien de temps avant il est apparu, on ne peut pas le savoir.
Ouais, il est apparu par sélection naturelle. Oui. C'est-à-dire ce qui implique immédiatement que les Denisoviens ont séjourné plusieurs centaines de milliers d'années sur le plateau tibétain.
Car le processus est long.
Question,
Camille.
Un message de Daniel sur franceinter.fr. N'oubliez pas aussi, s'il vous plaît, de mentionner qu'il y a encore d'autres espèces humaines, telles que l'homme de Flores, par exemple.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a été peut-être un peu rapide en disant qu'il n'y avait que trois espèces. Mais bien sûr, il y a, pour l'époque qu'on appelle le Pléistocène moyen, il y a les Néandertaliens en Europe, il y a les Denisoviens en Asie, surtout dans l'Asie continentale et du Sud-Ouest. Il y a dans des îles, comme l'île de Flores, l'homme de Flores. On a également l'homme de Luçon, qui se trouve dans l'île de Luçon. Et puis, si on va en Afrique, à la même époque, on a encore une autre espèce, qui est Naledi, qui se trouve en Afrique du Sud.
Donc, ce qui fait une dizaine d'espèces humaines connues aujourd'hui?
Ben écoutez, à côté de ça, il y a encore un peu d'Homo erectus qui reste.
Ouais.
Quand Sapiens est là, il côtoie au moins 5 ou 6 espèces.
Et Homo habilis, et puis en fait, tout dépend de la définition précise qu'on emploie pour espèce. Espèce paléontologique, espèce...
Et aujourd'hui, nous sommes la dernière.
Aujourd'hui, on est la seule espèce.
Homo sapiens. Ce site de Denisova, encore un petit mot, parce que vous dites, ils vivent quand même dans des conditions assez rudes, il fait froid. Il y a des hyènes aussi qui fréquentent les grottes, donc tout ça, il faut être résistant à cet environnement très particulier. Mais pour autant, cette région de l'Altaï, donc, c'est un carrefour, c'est ce que vous décrivez, où tout le temps, les populations se sont croisées. Ça, c'est important de le concevoir aussi.
Oui, il y a quelque chose qui est très souvent oublié en préhistoire quand on essaye de reconstituer les mouvements des populations, c'est qu'il existe une savane au nord. Sylvana et moi-même, nous avons pris l'habitude de l'appeler l'autoroute steppique.
Ouais, c'est ça.
Cette savane, cette steppe, elle rejoint le centre de la Hongrie à la Mongolie, voire... elle joint le centre de la Hongrie à la Mongolie, voire au Pacifique. Et du point de vue des chasseurs-cueilleurs, ces étendues herbeuses sur lesquelles il y a des millions et des millions d'herbivores sont très intéressantes.
Donc il y a des ressources.
Il y a des ressources, elles sont extrêmement faciles à voir. On peut organiser la chasse, on peut se déplacer. C'est un endroit merveilleux pour vivre, à condition de pouvoir résister au froid.
C'est ça. Donc malgré ces conditions, beaucoup d'humains et d'humaines sont présents pour y vivre, et se croisent, donc c'est-à-dire qu'ils échangent des choses.
Alors, ce qui est intéressant également dans cette histoire de la grotte de Denisova, c'est que c'est un peu la limite du territoire, la limite ouest du territoire des Denisoviens. Et c'est la limite est du territoire de Néandertal. C'est vraiment une chance incroyable d'avoir pu avoir cette grotte extrêmement bien fouillée par nos collègues russes.
Et d'être tombé sur l'ADN, précisément.
D'être tombé, justement, à cause de la température sur des restes qui...
Conservés.
Et pour lesquels on a pu vraiment extraire de l'ADN.
En fait, Mathieu, on espère que la suite des fouilles à Denisova nous livreront la pancarte de douanier.
Oui, carrément, bien sûr.
C'est à la frontière.
C'est ce que je comprends, absolument.
Avec le passeport, le contrôle du passeport. Justement, en termes de déplacement, Malé nous demande si ceux qui ont traversé le détroit de Bering pour peupler le continent américain étaient des Denisoviens.
Alors, le détroit de Bering a été traversé pour peupler l'Amérique assez tardivement, aux alentours de 20 000 ans. Alors, à cette époque, il y avait déjà des sapiens en Asie. Donc, théoriquement, ce n'est pas des Denisoviens.
Mais il pourrait y avoir.
Mais ces humains avaient quand même des gènes Denisoviens, puisqu'on en trouve dans les populations des Amériques. Mais bizarrement, encore une fois, il y a plus de gènes Denisoviens dans les populations d'Amérique du Sud, ce qui fait penser qu'il y a eu plutôt des déplacements de population entre le sud-est asiatique et l'Amérique latine.
Mais comment ils ont fait ?
Ah, vous savez,
ils ont traversé les océans.
Le peuplement de l'Amérique est en plein bouleversement en ce moment. Il y a des fouilles extrêmement intéressantes.
Mais est-ce qu'ils avaient les moyens de faire de longues navigations, par exemple ?
Il y a des radeaux, il y a des tsunamis qui emportent des bouts de terre, il y a peut-être aussi des radeaux. Vous savez, on revoit beaucoup de nos idées un peu préconçues. On a toujours pensé que nous, Homo sapiens, on savait tout faire et les autres n'étaient pas très doués.
Mais ils se débrouillaient bien pour les voyages,
oui,
apparemment,
pense.
Pour les déplacements.
Sylvana, je ne parlerai pas de radeaux, je parlerai de véritables bateaux, d'une technologie très avancée.
Et on en a des preuves archéologiques ou pas ?
Oui, non.
Oui, là, aussi.
Ah ben, vous n'êtes pas d'accord, alors.
Non,
c'est quoi la réponse ?
Ben, c'est-à-dire que la seule preuve archéologique que nous ayons, mais elle est quand même forte, c'est la rapidité de la progression de la vague qui a peuplé l'Amérique. Et elle arrive, et à partir du moment où elle est bien repérée, elle avance très vite vers
mais
le
ça,
sud.
Mais ça, c'est pas une preuve. Ouais. C'est pas une preuve
archéologique.
Non,
mais elle avance le long de la côte pacifique. Donc, et ce n'est que vers 12 000 ans que l'Amazonie est investie.
Mais comment ? Avec quel transport ?
Ah, c'est en cours d'étude. On a beaucoup de collègues qui travaillent sur ça.
Allez, vous restez avec nous. On parle de Denisova jusqu'à 15h sur France Inter.
France Inter, la Terre au carré.
Et c'est l'heure de passer au vert, Camille Cronier.
Et je pense qu'on est un certain nombre à avoir dans nos tiroirs, voire à nos pieds au moment où je vous parle, des chaussettes H&M, le genre de basique en coton qu'on achète un peu à la va-vite plutôt que d'aller chercher des magasins à 15 euros la paire minimum. Et une majorité d'entre nous, consommateurs, comme l'explique Rubens Carvalho de l'ONG Earthsight, ne souhaiteraient pas être mêlés à de la déforestation illégale, de l'accaparement de terres ou des violations des droits de l'homme. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et oui, l'ONG britannique a enquêté pendant un an l'an dernier sur l'origine du coton utilisé par H&M, mais aussi par Zara, deux géants du textile et de la fast fashion, pour presque 200 millions de chaussettes, donc de t-shirts, de sweatshirts, de jeans, bref, des vêtements de tous les jours, mais aussi les articles vendus pour la maison, genre les serviettes de toilette, écoulés sur le marché européen. Bilan.
Nos recherches montrent que le coton qu'ils utilisent n'est pas du tout durable. Il est lié à des pratiques très nuisibles pour l'environnement, incluant la déforestation de grandes zones de végétation endémique. Mais il n'y a pas que la déforestation. Il y a la contamination de sources d'eau locales avec des pesticides, l'utilisation non durable de la ressource en eau. Et puis, le pompon, c'est que H&M et Zara s'appuient sur un label de certification appelé « Better Cotton », qui apporte une image très puissante en termes de durabilité et de légalité dans les chaînes d'approvisionnement de coton. Mais une fois de plus, quand on regarde ce qu'il y a derrière, en réalité, Better Cotton est en fait un système de certification très flou qui ne peut pas garantir la durabilité de la production de coton.
Sans parler des habitants dont les terres donc sont accaparées, parfois violemment, exemple avec cet éleveur qui se fait éloigner comme ça. Voilà, des tirs en l'air de la part du gardien d'une future plantation. Et la région où tout ça se passe au Brésil, d'où part la majorité du coton, c'est le Cerrado, la savane qui abrite le plus de biodiversité au monde, une sorte de forêt inversée avec tout un système racinaire qui en fait aussi un formidable puits de carbone, ravagé donc. Rubens Carvalho raconte qu'ils ont filmé des bulldozers juste sous leurs yeux en train de dégager la végétation endémique pour faire place à de grandes cultures. La déforestation au Cerrado a augmenté l'an dernier de 43%, quand celle de la célèbre Amazonie a baissé de 50% au même moment. Et ça s'explique malheureusement assez simplement. Écoutez cette fois Clairville Guénic, chargée de campagne forêt tropicale à l'association Canopée.
C'est une région qui est moins connue et donc sur laquelle il y a moins de politiques qui sont mises en œuvre. Par exemple, au Brésil, la législation protège beaucoup moins le Cerrado que l'Amazonie. À titre d'exemple, le code forestier autorise un propriétaire forestier à déforester 80% de sa propriété si elle est dans le Cerrado et uniquement 20% si elle est en Amazonie.
Et cette législation plus souple va même au-delà des frontières brésiliennes. Typiquement, une nouvelle réglementation européenne, dont on a beaucoup parlé, interdisant l'importation de certains produits contribuant à la déforestation, n'inclut pas le cerrado ni le coton. Cynisme absolu donc, que font les industriels, devinez, ils se déplacent, ils se reportent là où ils peuvent déforester à l'aise, et puis donc ils changent aussi de matière première.
Oui, c'est un peu décourageant honnêtement, parce qu'il y a des choses qui peuvent sembler être une victoire sur le coup. Le moratoire sur le soja en Amazonie, c'était vraiment une grosse victoire, et en fait on se rend compte que tant qu'on n'a pas une vision globale, il y aura juste un déplacement vers d'autres régions ou vers d'autres matières premières.
Alors Zara et H&M, soumis aussi à la loi sur le devoir de vigilance en Europe, ont réagi auprès de l'agence France Presse en particulier. Les deux disent prendre très au sérieux les conclusions du rapport d'Earthsight. H&M souligne même avoir été l'un des premiers à passer à un coton 100% biologique, recyclé ou approvisionné de manière durable, et attendent le plus rapidement possible les résultats d'une enquête indépendante lancée par le label Better Cotton qui a également réagi. Rubens Carvalho, lui, ironise un petit peu sur le manque de surveillance de la chaîne d'approvisionnement de ce coton soi-disant durable et recyclé avant que la matière première n'atterrisse dans les usines en Asie.
Si on ne peut pas le faire, alors eux peuvent et devraient le faire. Ce qu'on révèle, c'est vraiment un échec total de l'industrie de la mode de s'assurer qu'ils ne sont pas liés à ce genre de pratiques non durables et illégales qu'on a vues. Parce que les gros distributeurs de vêtements en coton consomment d'énormes quantités de coton chaque année. Et à la fin, ils en font du profit. Donc, ils doivent assumer leurs responsabilités pour tout ça. Ils devraient montrer l'exemple si les plus grandes marques ne sont pas capables de le faire. Alors, que peut-on attendre des autres ?
Voilà, si l'ONG a réussi à le faire, ça veut dire que quand même ces énormes boîtes peuvent le faire, c'est ce qu'il disait. Les gouvernements sont aussi appelés à légiférer encore plus et surtout à veiller à bien faire appliquer les lois, d'autant que les consommateurs, eux, n'ont aujourd'hui mais aucun moyen de savoir d'où vient la matière première des articles qu'ils achètent. Et ce scandale du coton sale n'en est qu'à ses débuts, quand on sait que le Brésil, actuel deuxième exportateur mondial de coton, compte passer devant les États-Unis pour devenir premier. Il est désormais regardé de près comme ce pauvre cerrado oublié.
Et c'est nos chaussettes qu'on va regarder de près. Merci beaucoup, Camille Cronier.
Est-ce que vous avez des chaussettes ou des vêtements, des articles H&M ou Zara et vous découvrez ça ? C'est vrai, quand on est consommateur, on ne peut pas savoir que c'est dans la pandémie.
Écoutez, moi j'avais été très très choquée par cet incendie qu'il y avait eu il y a quelques années dans les établissements et j'avoue que depuis, j'ai vraiment arrêté d'acheter beaucoup de produits. Je me suis rendu compte que j'ai plein de choses dans mes tiroirs. Et que, je ne consomme pas trop, ça me suffit. Et donc, j'ai vraiment réduit ma consommation. Mais bon.
Mais pour autant, est-ce que vous savez d'où viennent les matières premières ?
Absolument pas. Voilà. Absolument pas. Mais bon, je ne suis pas certaine de ne pas avoir des choses que je ne devrais pas avoir dans mes tiroirs.
Ils avaient des chaussettes, les Denisoviens, ou pas, a priori ?
Ah, les Denisoviens, ils avaient des pots. D'animaux qui traitaient, qui tannaient pour pouvoir marcher dans le froid.
Mais oui.
Et voilà.
Dans la neige.
Mais, dans la neige et tout ça, oui, oui. Non, mais je pense que quand on vit dans des climats froids,
Trouve toujours le moyen de se réchauffer.
On trouve le moyen de se réchauffer. Ils avaient le feu, ils avaient également des vêtements.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de ce dossier sur France Inter. On Your Side, The Last Dinner Party sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Tous les habitants de la planète ont un ancêtre commun et récent en Afrique. La première migration hors d'Afrique qui a donné lieu à nous tous, les non-Africains, commence il y a 60 000 ans et il part de l'Afrique de l'Est. Il suit une route côtière. Nos ancêtres ont continué à se métisser avec des multitudes de peuples, des Néandertals ou à l'homme de Denisova, le cousin Néandertal en Asie, ou simplement entre différentes populations humaines. On est le résultat de quatre groupes génétiques différents.
Voilà, le chercheur Luis Quintana Murci en janvier 2022 dans une vidéo de France Info. Sylvana Condemi et François Savetier avec nous pour parler de cette autre humanité, celle de Denisova chez Albin Michel. C'est important ce que rappelle Luis Quintana Murci.
Ah oui, c'est extrêmement important.
Il faut se le redire régulièrement quand même que nous sommes, nous, Européens, le fruit de tous ces mélanges. Hein.
Oui, nous, sapiens, nous sommes le fruit de tous ces mélanges. Ouais. Et nous portons tous en nous des gènes de Néandertal et les Asiatiques en plus portent en eux des gènes de Denisova.
Voilà, on a toute cette histoire-là.
Toute cette histoire qui est en nous et notre histoire génétique raconte l'histoire de nos déplacements, de nos migrations, de nos rencontres, de nos échanges,
de nos métissages.
Et justement là-dessus, Laurent voudrait savoir comment on explique qu'on garde des gènes comme ça de néandertaliens, de dénisoviens. Comment ça se fait qu'on...
Ben, c'est un peu mystérieux, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne garde pas tous les gènes des néandertals et tous les gènes de Denisova. Il y a ce qu'on appelle dans notre... au moment des rencontres, on garde des gènes qui sont... un peu utile, c'est ce qu'on appelle une sélection positive. Mmh. Notre génome fait une sélection entre les gènes qui peuvent être importants et du point de vue sélectif, comme par exemple le gène de l'altitude, quand on vit à l'altitude, mais aussi, c'est justement Luis Quintana Murci qui a mis en évidence que nous avons aussi des adaptations aux pathogènes qui et nous viennent également de ces mélanges avec Néandertal et avec Denisova.
C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours des choses bénéfiques.
C'est-à-dire que
on n'hérite pas toujours de choses qui nous avantagent.
Qui nous avantagent, mais parfois on hérite de choses qui ne sont pas utiles sur le moment, mais qui peuvent s'avérer utiles après, au moment où on se trouve dans la situation de devoir être face à certains pathogènes.
François Savatier.
Ou l'inverse, en fait, puisque s'agissant de Néandertal, qui était un formidable mangeur de viande, qui avait un squelette en cloche pour loger un énorme foie, afin de pouvoir digérer sa viande, les avantages d'avoir hérité de gènes néandertaliens se sont en fait retournés contre nous aujourd'hui, puisque nous sommes si bien nourris, nous avons tellement de ressources alimentaires partout, de sorte qu'une certaine tendance à l'obésité est amplifiée par les gènes néandertaliens que nous avons.
Avec combien d'ossements est-ce qu'on peut faire un portrait robot de cette humanité denisovienne exactement aujourd'hui? De combien de fossiles on dispose?
Pour avoir fréquenté Sylvana longtemps, je peux vous dire qu'à la limite, un tout petit fragment suffirait. Ouais. En tout cas, s'il s'agit d'un fragment de néandertalien, puisqu'elle les a tellement étudiés qu'elle est capable de dire que tel ou tel os est néandertalien.
Mais sur l'inventaire vraiment denisovien.
Mais s'agissant de Denisova, je dirais qu'il y a sans doute un peu plus de 10 fossiles qui sont très significatifs. Et... par chance, il y a dans cet inventaire plusieurs crânes et une ébauche de squelettes.
Et avec ça, on arrive à faire le portrait robot, s'il y avait l'incondémie, d'un homme ou d'une femme dénisovienne.
Oui, on arrive, parce que c'est-à-dire qu'on a d'un côté des caractères qui sont purement anatomiques, que nous connaissons. On a des caractères qui nous viennent également de la génétique, qui nous viennent du profil de méthylation, et puis aussi
du
profil de méthylation génétique.
Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire que les généticiens nous ont aidés pour ce portrait robot. Ils sont partis du génome de Denisova III et ils ont essayé de comprendre comment ces caractères génétiques peuvent donner des caractères phénotypiques.
Quand vous donnez un numéro, c'est les fossiles en fait, dont vous parlez.
Denisova III, c'est vraiment le petit fragment de phalange, qui est vraiment un fragment de phalange extrêmement important parce que ça a donné un génome également de très haute qualité.
Donc à partir d'une phalange, ils arrivent à faire un profil.
Alors, à partir de cette phalange, ils font un profil, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas uniquement à partir de cette phalange, mais c'est-à-dire par comparaison des profils de méthylation de sapiens, de Néandertal, du chimpanzé, on arrive à prédire comment certaines parties du génome, qui sont impliquées dans certains gènes, peuvent aller dans une direction phénotypique ou pas. Et donc, ils ont prédit un certain profil de méthylation pour Denisova, qui nous a beaucoup aidés. Alors, on avait d'autres éléments. On savait, par exemple, que Néandertal et Denisova se sont séparés en deux branches il y a 400 000 ans. Or, ce que nous savons, nous, comme paléanthropologues, c'est qu'il y a 400 000 ans, il y a eu un processus de différenciation de Néandertal en Europe qui a porté aux Néandertaliens. Et donc, on appelle ce processus de différenciation la néandertalisation. Et il est clair que de l'autre côté, quand il y a eu cette séparation de la branche Néandertal et Denisova, eh bien, Denisova aussi a évolué de son côté. Mm-hmm. Il y a eu ce que nous appelons par un néologisme avec François une Denisovation,
ouais,
qui a porté au Denisova. Et donc, les caractères que nous trouvons, dans le profil de méthylation, on nous dit qu'il y a des caractères qui sont semblables entre Néandertal et Denisova. Mais ce sont soit des caractères archaïques, soit des caractères qui étaient potentiellement là dans les deux branches, qui se sont développés dans les deux branches.
Alors, on va essayer de parler concrètement pour dresser ce portrait robot, justement. Alors, à quoi il ressemblait ce Denisovien ou cette Denisovienne? Parce que la phalange, c'était celle d'une adolescente,
c'était
en l'occurrence.
C'était celle d'une adolescente. Parce que la phalange, au fait, qu'on a analysée, c'est un petit bout de phalange.
D'ailleurs, juste petite parenthèse, Françoise nous écrit sur franceinter.fr, il y en a marre de parler toujours au masculin. Est-ce qu'on pourrait parfois parler de femmes quand on est
féministe? Oui, elle a tout à fait raison.
Et on le fait depuis le début de l'émission, d'ailleurs.
Et on le fait depuis. Et je voudrais préciser, pour faire plaisir à Françoise, que si elle regarde notre livre, L'énigme d'Denisova, il y a beaucoup de femmes qui sont représentées.
Et vous parlez d'humanité denisovienne, d'ailleurs,
d'humanité
très souvent.
Denisovienne.
Pour éviter de dire l'homme de Denisova.
Nous, on ne dit jamais l'homme de Denisova. Et nous avons une des superbes illustrations, là je voudrais le citer, de Benoît Clarisse. Et Benoît Clarisse nous a vraiment fait plaisir parce que toutes les Denisoviens qu'il a représentées sont des Denisoviennes.
Alors à quoi ça ressemble? Elle ressemble.
Alors c'est un vaste territoire, il faut séparer cette population denisovienne. Était une population qui était sans doute différente au nord ou au sud. Mais ce qu'on a, ce sont des populations pour le nord, des petits et trapus comme les Néandertaliens. C'est-à-dire avec des os bien forts,
charpentés,
une cage thoracique également pas parallèle comme la nôtre, mais en forme de cloche, comme vient le dire François, avec des membres, les jambes courtes par rapport aux cuisses, les avant-bras courts, donc tous des caractères d'adaptation au froid. Ensuite, si on part dans le visage, on voit que c'était des individus qui avaient une très grosse tête. Il faut savoir que les Denisoviens qui ont été identifiés ont des capacités crâniennes qui sont supérieures à celles de Sapiens et supérieures à celles de Néandertal. On arrive à 1800 cm3.
Et en moyenne, pour Sapiens, c'est
et
quoi?
Et en moyenne, c'est 1300, 1400.
1450, je crois.
Voilà. Et ce qui est très, très intéressant, c'est donc des têtes très grandes. Par exemple, la distance entre les deux os pariétaux, là, au haut du crâne, très importante, donc des têtes très grosses, très carrées, bien larges.
Et les dents, parlez-nous des dents.
Et des dents massives. Alors la dent, on l'a vu tout de suite à partir de la dent de Denisova 4, qu'on a dans la grotte. On a vu que la surface de mastication, la surface occipitale, est très très grande. Très très grande, il y a 7 cuspides, alors que chez nous, il y en a 4 ou 5.
Cuspide, ça veut dire relief.
Relief.
Merci.
Voilà.
Les petits reliefs dans les dents.
Donc, une surface de mastication extrêmement importante. Et en plus, ces dents, alors là, c'est encore un caractère très intéressant dans les dents. Il y a 3 racines dans les molaires. Or, généralement, il n'y en a que 2. Sauf que quand on regarde les sapiens asiatiques, c'est chez eux qu'il y a le plus grand pourcentage de molaires à 3 racines. Et ça a été interprété comme un caractère qui nous vient justement du métissage avec Denisova.
Alors, les Chinois, par exemple, d'aujourd'hui, seraient les héritiers de
Alors,
Denisova?
Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, Mathieu. Parce qu'au fait, quand on regarde le pourcentage de gènes qui sont hérités chez les Chinois, il y en a moins que dans les populations du sud-est asiatique. Donc, bien sûr qu'il y avait un stock denisovien en Asie continentale, mais le stock denisovien que l'on trouve le plus important, c'est dans le sud-est asiatique, dans les Philippines et dans d'autres régions.
François Savatier, vous parlez des papous aussi. Ça peut être aussi une référence pour imaginer physiquement à quoi pouvaient ressembler les denisoviens ou pas?
Comme le disait Sylvana à l'instant, la reconstitution du peuplement de l'Asie est quelque chose de très complexe. Néanmoins, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il y a eu un débordement continental de l'Asie vers l'Asie du Sud-Est. C'est pour ça, par exemple, que les Philippins ont quelque chose de... s'appartiennent avec les gens d'Asie continentale, les Chinois du Sud, les Malais d'eux-mêmes. Mais, en fait, il existe sous cette population humaine majoritaire en Asie du Sud-Est un substrat plus ancien qui est constitué par des gens qui sont authentiquement noirs et qui ressemblent beaucoup aux Africains. Ces gens s'appellent les Negritos aux Philippines. Ils s'appellent quelque chose comme Die Schwarzen dans les anciennes Indes hollandaises. Et il y a aussi les Papous et les Aborigènes. Et ces populations-là sont celles qui ont le plus de gènes dénisoviens. Dans le cas, par exemple, des Acta Magdubon des Philippines...
C'est quel pourcentage?
Ça va jusqu'à 5%.
5% de gènes hérités donc de Denisova.
Ce qui est absolument énorme et qui indique un métissage qui est relativement récent. Vous et moi, nous sommes des métis néandertaliens sapiens.
Mais 1 à 2%, c'est pas
voilà,
la moyenne.
C'est ça, entre 1 à 2%. 1,5 en moyenne. Alors que dans le cas de ces gens-là, 5% indique que le métissage a eu lieu quelque chose comme il y a 25 000 ans. Il y avait encore des Denisoviens il y a une trentaine de milliers d'années en Asie du Sud-Est.
Question d'Alan qui voudrait savoir, est-ce qu'on peut savoir justement si ces différentes espèces vivaient ensemble en bonne entente ou est-ce qu'il y aurait eu des conflits ou des rapprochements? Est-ce qu'on sait ça?
En tout cas, ils se sont aimés, ça c'est sûr.
Je ne sais pas s'ils s'aimaient toujours, mais de toute façon, ils se sont mélangés.
Voilà.
Ils se sont mélangés. C'est la preuve, c'est que nous, sapiens, nous avons des gènes denisoviens. Mais on n'a pas trouvé, alors si pour répondre sérieusement à la question, on n'a pas trouvé de fossiles, même dans ceux que nous identifions comme denisoviens, des fossiles qui présenteraient des traces de violence. On n'en trouve pas.
Si vous permettez, Sylvana, il y a quand même le crâne de Maba. C'est un crâne qui a été trouvé dans le sud de la Chine. Il est denisovien d'après nous. Et cet individu a reçu un violent coup sur le côté droit, ce qui signifie qu'il a été frappé par derrière, comportement humain caractéristique.
Il est peut-être tombé, non? Ça peut pas être...
Il peut être tombé et puis avoir été blessé par un congénère qui n'était pas forcément sapiens.
Non, la police scientifique est trop avancée. Quand on reçoit un coup à cet endroit-là, c'est connu, c'est un coup de massue par derrière. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a guéri. Et donc, il a été...
Il y a eu des soins.
Il a été soigné et après, il a été tué par un grand chat, enfin, c'est-à-dire par un tigre. Et donc, cet individu, on peut trouver...
Ah oui, il n'a pas eu de bol, quand même. Oui.
Voilà. D'ailleurs, dans le livre, nous l'appelons Maba le malchanceux.
Oui. Et
cet individu peut très bien avoir été frappé par derrière par un denisovien. Pourquoi pas?
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé. La maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. C'était lui le garde-barrière et il nous a bien remercié. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. À pied. tout autour de la terre, à pied, tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles. À pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile.
En sortant de l'école, Yves Montand sur France Inter. On est encore quelques minutes avec cette autre humanité, celle de Denis Sauva, et des questions, Camille, pour nos invités.
Oui, Loïc voudrait savoir, Sylvana Condémy, à quand remonte l'ancêtre commun entre Néandertal et Denis Sauva ?
À 800 000 ans.
800 000 ans,
800 000 ans, à peu près.
Et ensuite, divergence.
Et ensuite, divergence à 800 000 ans.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Parlons du bambou, s'il vous plaît, François Sabatier, parce que ça, c'est quelque chose d'assez passionnant également dans votre livre. Vous dites, puisque nous sommes dans les cultures asiatiques, que le bambou se serait substitué à la pierre chez les hommes préhistoriques, justement, de ces régions.
En effet, c'est quand on observe la façon dont notre espèce, l'espèce Homo sapiens, est sortie d'Afrique, comme tous les humains tropicaux qui les ont précédés, les sapiens sont tournés à droite et sont allés vers l'Asie. Et curieusement, quand ils sont arrivés en Asie, alors qu'ils pratiquaient des techniques de taille de la pierre élaborées, ouais, ils les ont abandonnées et se sont contentés d'une taille primitive qui permet juste d'obtenir des arêtes. Donc ça a été interprété par les préhistoriens qui fouillent les sites où il y a des sapiens. Mmh. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'en fait, une fois arrivés en Asie, on n'a plus besoin que de couteaux frustes pour aiguiser des armes végétales. Et donc des industries sur végétaux ont remplacé les industries lithiques.
Donc le bambou.
Et, alors, et donc pour appuyer ça, tout le monde a regardé, ces préhistoriens comme nous, quelle est l'importance de la forêt de bambou en Asie ? Or, il s'avère que depuis la Corée jusqu'aux forêts équatoriales d'Asie du Sud-Est, il y a des bambous partout, par dizaines d'espèces.
Donc ça aurait été la matière première, au fond, de ces régions du monde.
Hein. Et si l'on observe bien, dans toutes les cultures asiatiques, le bambou est partout.
Comme
il est
la pierre joue ce rôle l'Eurasie occidentale.
Il sert à tout. Il sert à construire des maisons, à produire des vêtements, à produire des paniers, à faire des bateaux. Le bambou sert à tout.
Il y a une très belle histoire de météorite, mais on n'a pas le temps de la raconter. Je suis désolé, mais il faut la laisser au lecteur.
Oui, on laissera au lecteur, mais il y a plein de choses sur cette énigme d'Denis Sauva que nous avons, je pense, résolue.
Eh bien voilà, donc on pourra le savoir en lisant cet ouvrage chez Albin Michel, que vous signez Sylvana Condémy et François Sabatier. Merci beaucoup
Merci à
d'être
vous,
venu nous en parler
Merci
cet après-midi.
Merci.